Avoir une case en moins, revenir à la case départ. Les expressions avec ce mot ne manquent pas. Aujourd'hui, le quatrième mur reçoit quelqu'un qui travaille dans la BD et a donc passé une bonne partie de sa vie à remplir des cases, sans pour autant s'y laisser enfermer. Edmond Tourguel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tu as un riche parcours. Ça fait un petit moment que tu œuvres dans le métier de la BD et des comic books. Et encore, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, puisque tu travailles à la fois en tant que traducteur, principalement de comic book, et tu es également scénariste de BD, principalement sur des BD qui parlent de football, puisque c'est une de tes passions, on y reviendra. Je crois que c'est Jérôme Wiki, qui est lui aussi traducteur, et bien connu des lecteurs de Urban Comics pour certaines très belles traductions qu'il fait, qui t'a mis le pied à l'étrier, il me semble.
En quelque sorte, oui, c'est tout à fait grâce à Jérôme que, en gros, il a pu générer l'étincelle qui a mis le feu au brasier de ma carrière.
Il était non seulement traducteur, mais il travaillait également dans une agence de presse. Et au début des années 2000, a fortiori après le 11 septembre 2001, travailler dans une agence de presse, ça prenait beaucoup de temps. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il a dû lever le pied en tant que traducteur. Est-ce que toi, c'est à ce moment-là que tu as travaillé sur davantage de projets ?
Puisqu'on aborde la question maintenant, je vais tout te raconter. Je connaissais Jérôme depuis des années, en fait, puisque j'ai connu Jérôme en tant que, à un moment où on était fans tous les deux d'une série de comics qui s'appelle The Savage Dragon, un comic book par Eric Larsen, un des fondateurs de Image Comics. Et on s'était rencontrés en ligne sur le forum, en fait sur la newsletter, la mailing list des fans du Savage Dragon.
Puisque c'était avant Facebook et
c'était avant les réseaux sociaux. Ouais. Avant les réseaux sociaux, on s'inscrivait tous à une liste d'emails et t'envoyais ta question. Et toute la mailing list la recevait et les gens y répondaient, ils discutaient, ça se générait des débats. C'était vraiment comme un groupe Facebook en quelque sorte, mais par email qu'on s'envoyait. Et donc, j'ai connu Jérôme donc, en 1996, ça devait être, ou 97, je ne sais plus.
Okay.
Mais pas en vrai, à
pas
distance.
Pas IRL.
Parce que, exactement. C'est-à-dire qu'à l'époque, il faisait partie des gens que je côtoyais via Internet. On parle vraiment des balbutiements d'Internet. Hein. Moi, je me connectais avec un modem 33600. C'est-à-dire qu'en gros, même pas un modem 56K. Le truc qu'il y avait avant, qui était encore moins puissant. Et il fallait se connecter la nuit, bien sûr, parce que sinon, c'était trop cher, parce que ça passait par la ligne téléphonique,
d'accord,
etc.
Ouais.
Et bon, moi, j'étais étudiant à l'époque. Donc, je n'avais pas d'argent, forcément. Et bref, je rencontre Jérôme en ligne via cette mailing list. Et je découvre qu'il est français, tout ça. On discute de plein de choses. Et on se rend compte qu'on a plein de points communs. En plus d'avoir le même anniversaire, on est tous les deux nés le 15 janvier. Donc, chaque année,
incroyable.
On se souhaite un bon anniversaire.
Tu ne peux pas l'oublier, du coup, tu n'as pas le droit.
Je ne peux pas me permettre. Et donc, on se rend compte qu'on a plein de points communs, de centres d'intérêt en commun, etc. Et à l'époque, moi, un de mes rêves, c'est de créer en fait ma propre maison d'édition pour faire des super-héros européens. En fait, au départ, ce qu'on veut faire, c'est créer le Marvel européen. Donc, avec un autre pote à l'époque, je crée un studio associatif qui s'appelle Climax Comics.
Okay.
Donc, Climax, comme ça veut dire orgasme, mais ça veut aussi dire moment fort, c'est le point culminant dans une
bien
histoire.
Sûr.
Donc, c'est important dans une histoire, quand on fait un scénario de bande dessinée, par exemple, d'avoir le climax, le moment fort, le point culminant de l'histoire. Le moment où ça pète, où il y a des explosions partout.
Le etc. moment où Superman il défonce la gueule du type de service.
Exactement.
Généralement.
Et donc, bon, on s'appelait Climax Comics et on réunissait une quinzaine d'amateurs pour créer des bandes dessinées en fanzine, enfin des comics.
Ouais.
On voulait vraiment faire des super-héros. Donc, on faisait des comics de super-héros en fanzine. Et Jérôme, il faisait partie des gens qui tourner autour de cette équipe en tant qu'amateur. Il proposait des idées de scénarios qui, pour la plupart, n'ont jamais été dessinées parce que finalement, ça s'est trouvé comme ça. C'était le plus dur. Le dessinateur dans le fanzine, souvent, c'est un peu comme le batteur dans un groupe de musique. Tout le monde en veut, mais il n'y en a pas pour tout le monde.
Une pénurie.
Et le pauvre Jérôme...
C'est plus dur de trouver un dessinateur qu'un scénariste, souvent.
Exactement, tout le monde pense être capable de raconter une histoire, y compris moi, hein. À l'époque j'étais nul, mais je ne le savais pas. Par contre, dessiner, ça se voit tout de suite si tu ne sais pas dessiner.
Alors quand
si
même
tu
savoir sais pas, manipuler le crayon.
Si tu ne sais pas raconter une histoire, en fait, tu t'en rends compte, mais pas tout de suite. Et encore, même quand les autres te le disent, tu vas te dire, mais non, ils n'ont pas compris mon histoire. Donc, bon. Bref, on faisait ça en amateur pendant quelques années. On a créé le studio associatif Climax en 1998. Donc, Jérôme, que j'avais connu avant en tant que fan, je lui ai dit, tiens, tu veux pas devenir enfin venir chez nous, enfin chez nous, participer à l'aventure Climax Comics en tant que scénariste bénévole. On est tous bénévoles. À
l'époque, oui, bien
on
sûr.
Pas d'argent, évidemment. Au contraire, ça nous coûte du fric d'éditer nos fanzines.
Oui, parce qu'il y avait l'impression,
L'impression, les photocopies, aller sur les salons.
On parlait pas de webtoon ou de comme beaucoup de gens qui mettent.
La plupart des gens n'avaient pas Internet. Voilà. Il faut pas l'oublier.
La question se posait
pas. Une autre époque. Nous, on était des pionniers parce qu'on avait Internet.
Ouais.
Déjà, on avait un ordinateur chez nous et on avait Internet.
Vous étiez parmi les. On était les nantis.
On était les geeks, les nerds. On n'était pas. Enfin, tout le monde faisait pas ça.
Bien sûr.
Bref. Donc j'avais cette petite aventure associative avec plein de copains, dont Jérôme. Mais Jérôme, lui, c'était un mec sérieux. Il faisait des vraies études pour bosser dans la traduction de l'anglais vers le français. Et il est devenu, par la force des choses, parce qu'il avait le diplôme pour ça, il est devenu traducteur professionnel dans une agence de photos, une agence de presse.
D'accord.
Et son métier, à lui, c'était de traduire les légendes photos que les photographes de cette agence envoyaient au QG de l'agence.
Ouais.
Et lui, son job, c'était de traduire du français vers l'anglais ou alors de l'anglais vers le français.
C'est légende.
Pour qu'après, les photos puissent être vendues dans le monde entier.
D'accord.
Et que les gens qui achètent les photos sachent que... à quoi correspond la photo.
Oui, ce que la photo elle raconte, quel type d'article elle va être amené à illustrer.
Donc c'était ça son boulot. Et dans le même temps, comme il était traducteur et diplômé, il avait un diplôme de traducteur officiellement, qu'il avait obtenu de haute lutte à la fac, eh bien, il a postulé chez différentes maisons d'édition. Il a commencé par traduire des articles chez Wizard, qui à l'époque était adapté par Panini.
D'accord.
Wizard, qui était le magazine des fans de comics avec plein de news, etc.
Okay.
Qui était le magazine numéro un pour tous les fans de comics. Bon, évidemment, moi, je l'achetais en américain, enfin en anglais.
Mm-hmm.
Alors aujourd'hui, ça a disparu, puisque maintenant, ça n'a plus trop de sens d'avoir des news sur un magazine, vu qu'on a tout en direct sur Internet.
Voilà.
Mais à l'époque, encore une fois, ça n'existait pas. Internet existait, mais ce n'était pas comme aujourd'hui.
Oui, et puis il n'y avait pas du tout l'idée de traduction ou de distribution quasiment simultanée, c'est-à-dire qu'il pouvait s'écouler plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'un projet comique.
Déjà, les images, il fallait vachement de temps pour télécharger une image.
Bien sûr.
Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, ils sont tous à la fibre, ils téléchargent des films en un claquement de doigts.
Ou en 4G, à l'époque, dans le métro, on oublie.
Rien que télécharger des photos, c'était compliqué.
En plus de son agence, de son travail en agence de presse, il a commencé à traduire des comics,
notamment
pour Wizard.
Il traduisait la version, enfin des articles pour Wizard chez Panini, et il faisait des démos pour bosser chez d'autres gens, notamment chez Semic, où il arrive à devenir traducteur sur certaines séries, et notamment certaines séries de CrossGen, qui était à l'époque un éditeur américain qui venait de se lancer, avec un programme éditorial très ambitieux, et qui impliquait ce programme de fourguer tout son catalogue à des éditeurs dans le monde entier.
Mm-hmm.
Mais en gros, pour devenir éditeur de CrossGen en France, il fallait sortir tout le catalogue de CrossGen, qui était un catalogue réduit, mais dès le départ, il y avait au moins 4 titres, puis après, il y en avait 6, etc.
C'était amené à se pérenniser.
Voilà. Et Semic était censé tout sortir. Donc, il propose ça à Jérôme, parce que c'était un truc qui était très bien pour un débutant. Donc, il y avait
pas d'enjeu,
série,
comme des grosses séries, comme ce serait Superman ou Batman.
Exactement.
Ouais,
donc, il lui propose ça. Et lui, bien sûr, il accepte, puisque c'était son boulot. Il avait postulé pour ça, et puis il avait le diplôme.
Il était fan de comics en plus. Donc,
voilà. Donc, il commence à bosser là-dedans. Donc là, on est, je ne saurais pas dire à quel moment on est, mais on est à la fin des années 90, au début des années 2000, et il fait sa petite expérience professionnelle en tant que traducteur de comics. Et effectivement, comme tu l'as dit, arrive le 11 septembre 2001, donc avec les fameux attentats contre le World Trade Center, et à ce moment-là, évidemment, Jérôme, qui travaille dans une agence de presse, son boulot explose.
Mmh.
Il se retrouve avec énormément de photos à légender et en plus des photos qui ne donnent pas la joie de vivre. Des photos avec des gens qui sautent des immeubles, des incendies, des pompiers qui ne peuvent plus respirer, des trucs vraiment qui te filent
le bourdon.
Qui te filent le bourdon, exactement. Et donc, il se retrouve à la fois avec un boulot lourd. Et donc le soir, il a plus envie de décompresser quand il rentre de sa journée au bureau que de se remettre à traduire d'autres trucs. Même si c'est des comics, finalement, il a plutôt envie de se dire maintenant ce soir, j'ai plutôt, regarder un film ou
puis
sortir,
en plus,
boire un coup.
Ces comics-là, en plus, même sans être des choses hyper violentes, il peut y avoir des bastons, il peut y avoir
Donc,
c'est pas forcément le meilleur moyen de décompresser.
Non, et puis c'est surtout que quand tu veux décompresser.
C'est chronophage, arrive.
Quand tu veux décompresser, en général, c'est mieux de pas faire un autre boulot.
Bien sûr, parce que c'est encore du stress.
Et donc, à ce moment-là, il se dit, je vais essayer de lever le pied là-dessus parce que là, on me propose trop de trucs. Je ne vais pas pouvoir tout garder parce que j'ai envie de pouvoir décompresser un peu.
Ouais.
Puis je ne peux plus être sous pression comme je l'étais. Et puis le boulot, il est tellement balèze pendant la journée que il avait besoin d'en faire un petit peu moins. Et à ce moment-là, il va voir les mecs de Semi qui leur dit bon, bah, vous savez, là, j'aimerais bien lever un peu le pied, mais par contre, si vous voulez, je connais un mec qui est très bien, qui a une bonne culture comics, qui parle anglais couramment, que je connais depuis plusieurs années et qui fera très bien l'affaire, c'est Edmond Touriol. Mm-hmm. Et là, les mecs de Semi qui disent ah, mais Edmond Touriol, mais on le connaît très bien. Et pourquoi ils me connaissaient? Bah, parce que j'avais passé mon temps à écumer les salons et les festivals de bande dessinée pour proposer ce qu'on faisait avec Climax Comics.
D'accord.
Et donc, on avait fait avec
poser
Climax.
Poser des jalons.
Exactement. On avait publié une cinquantaine de fanzines
okay.
de super-héros.
Ah ouais.
Et chaque fois qu'on publiait des bouquins, on les envoyait, bien sûr, à tous les éditeurs.
Pour se faire une notoriété, quoi.
Voilà, on les envoyait à Semic, aux responsables de Semic. On allait les voir sur les salons pour leur montrer ce qu'on faisait, pour essayer de les convaincre de sortir nos BD.
De les distribuer à plus vaste échelle, ouais.
Et donc, en fait, ils nous connaissaient déjà très bien.
Hmm.
Et ce qui se passe, c'est que, en gros, quand il sort mon nom, chez Semic, ils me connaissent déjà. Ils disent, très bien, on va voir avec lui. Et là, Thierry Mornay, qui est à l'époque, qui aujourd'hui est le responsable, le directeur de collection de tout ce qui est comics chez Delcourt.
D'accord.
À l'époque, c'était le rédacteur chef de Semic.
Ok.
Et donc, Thierry Mornay me contacte et me dit, tiens, Edmond, je voudrais discuter business avec toi. Est-ce que est-ce que ça te branche de venir faire un déjeuner à Paris avec moi? Alors, je me dis parfait, ça y est, on a réussi à le convaincre, il va nous acheter les droits des fanzines qu'on est en train de faire, et à nous la belle vie, on va
le jackpot,
on va enfin pouvoir qu'on ait repassé un cap,
ouais.
Et devenir et se professionnaliser et professionnaliser toute l'équipe pour faire de la création de comics de super-héros. Et puis en fait, arrive le déjeuner et là je me rends compte que non, pas du tout. En fait, ce qu'ils voulaient me proposer, c'était de faire de la traduction. Alors moi, j'étais super content aussi parce que finalement, je parlais anglais couramment, j'avais appris à lire dans les comics.
Mmh.
Moi, à l'époque, on est en 2001, donc j'ai 27 ans. Je lis des comics depuis l'âge de 4 ans et demi. Forcément, c'est toute ma vie.
Bien sûr.
On me dit, tu sais quoi, tu lis des comics en anglais depuis 13 ans, maintenant, au lieu de juste les lire, on va te payer pour
les traduire.
Et les traduire. D'accord, ouais, ça me branche. Et donc, j'ai commencé à faire ça d'abord sur une ou deux séries. Et puis, au fil du temps, j'en ai pris de plus en plus. Chaque fois qu'ils proposaient un truc, je me proposais toujours pour en faire davantage.
Mm-hmm.
Sachant que moi, à côté, j'avais un métier aussi. J'étais chargé de communication dans une boîte. Mon boulot, c'était de faire, faire parler de la boîte où je travaillais, donc dans la presse, dans les journaux. Moi, mes études, c'était communication.
D'accord.
Et donc, pendant longtemps, en fait, j'ai fait ces deux activités en même temps, quoi, chargé de communication et traducteur. Mais pas que traducteur, j'étais aussi, donc je dirigeais avec mon associé.
Climax Comics, toujours.
Non, Climax, justement, j'ai arrêté.
Ah, d'accord.
Parce que Climax, c'était amateur. Et en 2001, justement, quelques mois avant ça, on décide de professionnaliser ce qu'on faisait avec Climax et on crée en fait une boîte qui s'appelle Clark System Innovation, qui
d'accord.
va devenir par la suite, qu'on va rebaptiser, qui va devenir Macma, qui est le studio,
voilà.
Le studio numéro un aujourd'hui en Europe de tout ce qui est adaptation de comics, de webtoon pour le marché français.
Ouais, Macma, on y reviendra un peu plus tard si tu veux bien, puisque on va prendre les choses un peu chronologiquement, pardon. Et effectivement, Macma, j'avais bien noté, puisque c'est quelque chose qui t'occupe beaucoup aujourd'hui. Donc, comme tu disais, tu as été amené à traduire pas mal de choses, y compris pour Delcourt. Et c'est après, de fil en aiguille, tu as été amené à travailler sur deux séries qui sont, que tu considères d'ailleurs comme tes deux séries préférées de tous les temps. Donc, deux séries créées par le scénariste Robert Kirkman, donc Invincible, d'une part. Et ensuite, les célébrissimes, on ne les présente plus, The Walking Dead.
Absolument. Alors ça, pour la petite histoire, justement, j'ai commencé à travailler sur Invincible et sur Walking Dead à l'époque où j'étais chez Semic, puisque les premières éditions de ces deux séries ont commencé chez Semic avec
d'accord.
Thierry Mornay, qui était rédac chef à l'époque.
Okay.
Et c'est après, quand il allait chez Delcourt, que Semic, n'ayant pas réussi à faire fructifier ces séries-là,
mm-hmm.
d'ailleurs, en fait, ils ont quasiment tout arrêté.
Oui.
Disons que l'équipe de Semic s'est plus ou moins désagrégée. Et ils n'ont pas été en mesure de continuer leur activité de publication de comics. Donc, j'ai continué à travailler un petit peu pour Semic, je dirais, jusqu'en 2005, peut-être. Ouais, 2005, peut-être 2006, non, 2005, je ne sais pas. Et après, ils ont quasiment arrêté, alors qu'ils avaient la licence DC Comics quand même. Hein,
mm-hmm.
Donc, ce n'était pas rien.
Ouais, c'était
mais
chantier.
C'était peut-être qu'ils ont... Enfin, oui, évidemment qu'ils n'ont pas su la faire fructifier de la même manière que Urban est capable de le faire aujourd'hui. Parce qu'Urban, ils ont fait de Batman un méga best-seller.
C'est sans appel, ouais.
Alors qu'à l'époque, ça ne marchait pas tant que ça, Batman. En tout cas, pas suffisamment pour que Semic soit capable de garder cette licence.
Mm-hmm. Et donc, oui, effectivement, après, même à l'échelle du métier de la traduction, même d'adaptation, on pourrait parler, c'est véritablement The Walking Dead qui t'a mis sur la carte, puisque après, c'est devenu, d'abord, c'était un phénomène de BD, après, c'est devenu un phénomène de série télé, même, peut-être même maintenant, on peut parler de phénomène de société, puisque ça a connu une popularité monstre.
C'est un phénomène tout court, en fait, à plein de niveaux.
Phénomène tout court.
Alors, Walking Dead, ce qui est intéressant, c'est que déjà, c'est une BD en noir et blanc, donc typiquement le genre de truc qui ne se vend pas.
Ouais.
Genre, à moins d'être un manga, mais en l'occurrence, ce n'est pas un manga.
Ou un roman graphique, ou c'est un parti
pris. Ouais, voilà, mais là, c'est vraiment c'est un comic book de zombies, quoi. C'est pas un truc arty, c'est pas un truc.
C'est un blockbuster,
voilà,
un peu quand même.
Donc, c'est un peu inattendu que ce format ait marché. Mais moi, par contre, j'étais super fan de Kirkman avant même qu'il fasse Walking Dead. C'est-à-dire que même si Invincible, ça n'avait pas marché, en tout cas en France.
Ouais.
Moi j'étais super fan de ce qu'il faisait et même avant Invincible, je me souviens, je l'avais découvert d'une part dans Battle Pop et puis d'autre part surtout avant dans une mini-série qu'il avait fait avec Eric Larsen pour le Savage Dragon.
D'accord.
Mini-série super patriote, je crois. Bref, j'achetais tout ce qu'il faisait, je trouvais ça super. Et donc j'avais bien aimé voir ce qu'il faisait sur Walking Dead. Enfin, le pitch de Walking Dead était cool et je m'étais dit waouh, quand le truc sort, je l'achète direct.
Mm.
Et effectivement, quand Walking Dead a commencé à être publié, je l'ai acheté immédiatement et je fais partie des 1500 personnes qui ont le premier comic book de Walking Dead.
Un jour, vraiment... ça se vendra très cher. Garde-le quelque part.
Aujourd'hui,
c'est comme le tout premier Superman où tu le vois avec la bagnole dans la main en train de l'écraser sur la face.
C'est pas tout à fait pareil, il vaut moins cher. Mais aujourd'hui, je crois qu'il vaut quand même. Je pense que s'il était en bon état, il vaudrait plusieurs milliers d'euros. Alors, d'accord. Le mien, le problème, c'est que je l'ai stocké sur une étagère et il est à peu près en très bon état, sauf que la
tranche.
Alors, c'est pas la tranche, parce que pour le coup, c'est le dos.
Ouais.
Mais le dos piqué, donc là où il y a les agrafes, il a pris le soleil.
Ouais.
Et tous mes comics ont pris le soleil.
Tu perds quelques centaines d'euros là-dessus.
Bon, après, je vais pas les vendre de toute façon. Ils sont dans ma collection. C'est comme s'ils font un peu partie de ma vie. Mais donc, j'étais gros, gros fan de Kirkman et de Walking Dead. Et je me souviens, à l'époque, personne connaissait cette série en France.
Bien sûr. Et donc ça, c'était en quelle année? C'était fin des années 2000? Milieu des années 2000?
Alors, c'est bien simple, je m'en souviens très bien, puisque le premier épisode de Walking Dead est sorti, le premier comic book, est sorti la semaine où ma fille, Talia, est née.
D'accord.
Donc, elle est née le 12 octobre 2003.
D'accord.
Ce qui fait que...
ça fait quasiment 20 ans.
Ça
va faire 20 ans, ouais.
Et donc, c'était à la mi-octobre. Quoi.
Et donc, après, donc, toi, t'étais, en tant que lecteur, d'abord, tu étais fan de ça. Et après, c'est quand Delcourt a décidé de
Alors déjà, c'est Semic.
Ah, pardon. D'accord, autant pour moi. C'est Semic que tu disais.
Et donc, justement, à l'époque, je vais voir Thierry Mornay. Je lui dis, écoute, Thierry, là, il y a un truc, un titre qui est super, c'est Walking Dead. Alors, OK, c'est en noir et blanc, tout ça. Mais bon, si jamais vous voulez sortir, moi, ça m'intéresse, je veux le faire. Et puis, régulièrement, je revenais à la charge. Ouais, Walking Dead, c'est hyper important. Puis, comme personne demandait et que tout le monde s'en foutait, en gros, quand ils se sont dit, tiens, on achète la licence, évidemment, Thierry, à qui il la propose, il me la propose à moi.
Mm.
Parce que je suis le seul à lever le doigt depuis longtemps.
Mm.
Et puis, j'avais déjà aussi traduit Invincible
de
Kirkman. Et donc, forcément, il se dit, il aime bien Kirkman. Il a fait un boulot qui était satisfaisant sur Invincible. On va lui proposer aussi la nouvelle série Walking Dead, dont il n'arrête pas de nous vanter les louanges et qu'il veut absolument faire.
Mm.
Et donc, il me la propose. Je fais donc le premier trait de paperback, qui est donc le tome 1 qui sort chez Semic,
mm-hmm.
et qui sera en fait le seul tome qui sortira jamais chez Semic. Donc, c'est l'équivalent du tome 1 aussi de Delcourt, c'est la même chose, les six premiers épisodes. Et donc, chez Semic, il se trouve qu'il sort donc en 2004, je crois, ou peut-être début 2005, mais enfin bon, voilà. Et il ne se vend pas. Il n'est pas sorti au bon moment, ou la promo n'a pas été efficace, ou c'était une question de format peut-être, on ne le saura jamais. Enfin, de format non, puisqu'en fait, le format Delcourt, c'est le même en réalité. Bref, le titre ne marche pas. Et c'est pas grave, parce que la plupart des titres, de toute façon, de comics, ne se vendaient pas aussi bien que ce qu'ils ont pu faire par la suite. Je parle pas que de Walking Dead, de manière générale.
Les comics au sens
large. Le marché d'aujourd'hui, les fans de comics vont te dire que le marché des comics, il est faible en France, parce qu'il ne représente que 4% du marché de la BD.
Mm-hmm.
Mais il se trouve que ces 4% qui sont quand même assez solides, qui sont plus solides aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans.
Mm.
Parce que le marché s'est un peu consolidé avec Panini, Urban, Delcourt, qui ont des grosses licences et qui sont bien, bien implantées maintenant. Alors qu'à l'époque, les gens, ils sortaient... T'imagines, on sortait Batman, on sortait Superman, ça ne se vendait pas.
Mm.
Alors Superman, ça ne se vend pas forcément des masses aujourd'hui, mais Batman, aujourd'hui, tu sors n'importe quel Batman, ça se vend super bien.
Ouais.
Bon, c'était une époque aussi où il n'y avait pas toute cette culture des comics de super-héros qu'on a aujourd'hui, parce que les gens, ils ont vu 20 films Marvel, voilà, je ne sais pas combien de films
le
DC.
Le cinéma s'en est emparé voilà. aussi. Donc
du coup, ça, c'est vraiment complètement entré dans les mœurs que les gens s'intéressent aux comics, et pas que aux comics de super-héros, mais aux comics en général. Mm-hmm. Bref, donc ça ne marche pas chez Semic. Et quelques années plus tard, quand Thierry Mornay débarque chez Delcourt, bah, il se souvient qu'il avait des séries qu'il aimait bien chez Semic. Il se dit, bah, tiens, on va retenter le coup. Et bon, bah, comme j'avais traduit les premiers, il me dit, bah, tiens, est-ce qu'on peut reprendre ta trad pour Invincible et pour Walking Dead ? Et est-ce que tu veux continuer à traduire ces trucs ? Bah, je dis, bah, pardi, bien sûr que je veux les traduire. C'est mes deux séries préférées. Enfin, ma série préférée, c'était le Savage Dragon, mais ça, bon, c'est très compliqué à sortir en France. Mm. Ils ont fait une tentative traduite par Jérôme Vicky, d'ailleurs, très bien, qui n'a pas marché. Mais en ce moment, le Dragon, ça ressort quand même chez un autre éditeur, toujours traduit par, par Jérôme. Et ça a l'air vachement bien, mais là, je ne peux pas en dire plus, je ne l'ai pas encore lu en français. Bref, Invincible sont réédités chez Delcourt dans un nouveau format. Invincible est réédité au format, format comics, mais avec couverture cartonnée, mm-hmm. donc un peu plus, bah, un peu plus cher, et puis quand même un peu plus adapté finalement au marché qui avait évolué au marché du comic book en France. Mais ça ne marche pas pour autant. Hein. Je crois qu'ils font 3 ou 4 tomes et puis ils arrêtent le truc parce que ça ne marche pas. Et je crois que pendant 2 ans, il n'y a plus de bouquins qui sortent. Et finalement, ils les ressortent grâce au succès de Walking Dead en se disant, bah tiens, finalement, Kirkman, ça se vend bien. On va tenter de le repartir.
Avec marqué sur la couverture par l'auteur de Walking Dead.
Exactement. Et donc, pour en revenir à Walking Dead, bah, les premiers tomes sortent tranquillement. Ça ne marche pas tout de suite. Enfin, ça marche probablement suffisamment pour justifier le fait de continuer troisième tome, quatrième, cinquième, etc. Mais je crois que ça a commencé à vraiment bien se vendre. Alors là, on est un peu loin, je n'ai plus les chiffres en tête. Hein. Mais je sais qu'à un moment, j'ai commencé à toucher des droits d'auteur dessus, ce qui est très rare. C'est la première fois de ma vie que je touchais... Enfin, je suis payé en droits d'auteur. Mais la plupart du temps, quand un auteur, un traducteur, touche des droits d'auteur sur la partie avance. C'est-à-dire que je reçois une avance sur droit. Ouais. On me dit, tiens, pour traduire ce bouquin, tu vas être payé 500 balles. Bon, d'accord, très bien, merci, je prends mes 500 balles. Et puis, en général, le niveau de vente du bouquin ne justifie jamais d'aller au-delà de ces 500 balles. Parce qu'en fait, j'ai 500 balles, mais ça représente, par exemple, 1,5% des ventes ou 1% des ventes, selon ce qui est négocié.
D'accord.
Et bah, voilà, ce pourcentage des ventes publiques, bah, une fois qu'il a atteint la valeur des 500 balles que tu as pu toucher au début, bah, ça veut dire que chaque épisode, enfin chaque tome vendu après ça, après ce seuil, te déclenche un paiement de droit.
Okay.
Et tous les 6 mois, tu as ton relevé de vente et on te dit, bah, tiens, voilà, tu en as vendu, je sais pas, 250, donc tu vas toucher 250 fois 1% de 15 euros et donc voilà, voilà combien tu gagnes. Bref. Et là, je crois que c'était en 2010, je vois arriver un chèque de, je sais plus, 1000 balles, un truc comme ça. Et ça m'était jamais, enfin pas un chèque, un virement. Et ça m'était jamais arrivé. J'étais, waouh, qu'est-ce que c'est que cet argent ? J'ai de l'argent magique qui arrive sur mon compte, c'est génial, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, c'était les droits d'auteur de Walking Dead. Et ça, c'était bien avant la série télé. Enfin, bien avant, au moins, avant même qu'elle soit annoncée.
Oui.
Donc, la série comic book Walking Dead en France marchait déjà très très bien. Mmh. Et bon, alors évidemment, quand la série télé est arrivée, là, c'était délirant.
C'était l'explosion.
Mais même quand elle est arrivée, je commençais déjà quand même à bien gagner en droit d'auteur. Donc, ça veut dire que la vente marchait. Alors maintenant, c'est complètement retombé.
Oui.
Je gagne encore quelques droits d'auteur dessus, mais c'est complètement minime.
D'une part, c'est terminé. Et puis en plus, la série télé, en tout cas, en elle-même, c'est un peu essoufflée.
Oui, en gros, la hype est terminée.
Oui,
et puis la plupart des gens qui étaient intéressés par la série, bah, ils l'ont déjà acheté. Ils l'ont éventuellement racheté avec les intégrales, qui sont très bien. Peut-être qu'ils vont la racheter quand il y aura l'édition couleur. C'est tout ce que j'espère. Ça fera encore des droits d'auteur. Mais voilà.
Un nouveau cycle.
Voilà. En gros, voilà, en tout cas, la série est terminée. Et bah, c'était un succès phénoménal comme il n'y en aura peut-être plus jamais.
Ouais.
Parce que c'était un truc qui non seulement a touché les fans de comics, mais ça a touché la société.
Bien sûr.
Des gens qui ne lisaient jamais de bande dessinée achetaient Walking Dead. Et ça, c'est très très rare dans ce marché-là. Les chiffres de vente de Walking Dead flirtaient avec les chiffres de vente des meilleurs, enfin des mangas qui se vendaient le plus. Quoi. Chaque fois qu'un nouveau Walking Dead sortait en France, il était en tête des ventes.
Ah ouais.
Non pas seulement des ventes de BD, mais même en tête de vente tout court, des bouquins. Donc c'était vraiment des succès de malade. Et ça, bah voilà, ça arrive une fois dans une vie et je suis content, c'est tombé sur moi.
Fantastique. Et alors justement, tu parlais de, tu disais, les, tu parlais des, comment dire, des différents, des différentes œuvres de Robert Kirkman que tu avais adapté. Lui, quand tu, c'est d'ailleurs ce que tu as réussi à bien retranscrire en, en français. Lui, en VO, c'est quand même une certaine langue adaptée puisque c'est assez, alors vulgaire, c'est pas forcément le mot, mais il y a un skill assez incisif, assez percutant. Donc, c'est-à-dire que tu caricaturais un peu quand tu traduis du Kirkman, c'est pas comme si tu traduisais du Hergé, tu vois, je veux dire, dans la langue, c'est pas non. La langue châtiée. Donc,
mais attention,
c'est aussi...
je traduis pas que un scénariste, je traduis surtout des personnages.
Bien sûr.
Et moi, mon rôle en tant que traducteur, c'est de donner une voix à ces personnages. C'est-à-dire que Rick Grimes, il parle pas de la même façon que Negan, qui parle pas de la même façon que Carl, ou que le gouverneur, et ainsi de suite, ou que la gouverneuse, justement, qui arrive à la fin. Enfin bref, y a, chaque personnage a sa façon de parler, et j'essayais de leur donner des tics de langage, ou des... Est-ce qu'il y en a un qui va ne jamais prononcer les négations? Est-ce qu'il y en a un qui va utiliser un vocabulaire très soutenu? Est-ce qu'il y en a un qui va avoir des insultes particulièrement pittoresques comme Negan et particulièrement grossières et vulgaires? Bien sûr. Et à chaque fois, j'essayais de me noter des trucs en me disant, bah, tiens, lui, voilà comment il va parler. Parce qu'on ne peut pas traduire un personnage. Pour donner de la vie au dialogue, parce que la bande dessinée, c'est ça, c'est du dialogue. Il faut que les dialogues sonnent juste, il faut qu'ils soient naturels. Et si tes dialogues, en fait, ils sonnent comme le travail d'un élève de 6e qui a traduit mot à mot avec le dictionnaire sur les genoux le texte américain, bah, ça marche pas.
Il n'y a pas de valeur ajoutée.
Ça marche pas du tout. Et un gros problème qu'on a en France, c'est que le grand public s'est habitué à ces traductions. Tout simplement en lisant énormément de scantrad et de séries télé sous-titrées par des amateurs. Alors, j'ai rien contre les amateurs. Moi, je suis pas diplômé en
sous-titrage.
Je suis professionnel. Je ne suis pas diplômé ni en sous-titrage, ni en traduction, ni en quoi que ce soit. J'ai fait des études de sciences et de communication. Donc, voilà. Mais par contre, j'ai fait des études de comics, j'ai fait des études de BD, tout simplement parce que j'ai appris à lire dedans et j'en ai lu des centaines, des milliers, et j'ai fait l'effort de comprendre comment ça fonctionnait. Et donc, je l'ai prouvé par mon usage et par la réalité de ma pratique. Alors que quand un petit jeune, j'ai rien contre les petits jeunes, ça peut être un vieux d'ailleurs, ça peut être n'importe qui, mais en gros, quand un mec torche une traduction parce que pour être le premier à l'avoir traduit pendant la nuit, parce qu'il vient de, parce que le nouvel épisode est sorti, alors il l'a scanné, il l'a traduit et puis il l'a mis sur le net, la qualité de ce boulot là n'est pas forcément optimale,
et puis elle n'est pas à la hauteur de ce qu'il y a en VO en plus.
Exactement. Et par contre, les amateurs français, pas les amateurs, enfin, ceux qui aiment, ceux qui ont envie de lire en avance, qui veulent à tout prix avoir le truc, mais en français parce qu'ils ne parlent pas bien anglais, ou pourquoi pas, ils ne parlent peut-être pas bien japonais pour ceux qui lisent du scantrad de manga. En gros, quand tu ne parles pas bien la langue d'origine, tu as besoin que quelqu'un te le traduise. Donc tu vas non seulement pirater le truc et donc pas payer les auteurs qui ont bossé dessus, mais en plus tu vas lire une traduction toute pourrie et même aussi un lettrage tout pourri, parce que c'est pareil, c'est fait par des amateurs qui ne connaissent rien, qui vont même faire des fautes, qui ne vont pas respecter les règles de typographie, etc. Et le grand public qui prend l'habitude de ça, finalement, il s'habitue à se contenter de peu.
De cette médiocrité,
Ça, c'est le problème du scantrad. Alors, il y en a qui sont très bons. Et d'ailleurs, au sein même de MACMA, on a pas mal de gens qui viennent du scantrad. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais mon problème, c'est surtout qu'il n'y a pas de gradation dans la qualité. Tout est possible. Tu as des trucs très mauvais, des trucs très bons. Et l'important dans le scantrad, c'est d'être le premier sur le marché. Oui. C'est comme ça que tu prends des positions et que les gens, ils vont tous se mettre à lire ce que toi t'as traduit. Et si t'es un mauvais traducteur, du coup t'auras une mauvaise VF qui va circuler dans le monde entier et les gens ils vont s'habituer à ça. Donc alors pourquoi je dis ça? Parce que le grand public et parfois même les éditeurs, surtout les plus jeunes qui ont grandi avec cette culture du scantrad, se rendent pas compte de l'importance de la qualité des dialogues et le fait de s'éloigner de la VO. Il y a toujours des gens qui vont venir te dire « Ouais, mais t'as traduit ça alors que c'est pas ça qu'il dit en anglais. » Ben non, évidemment. Mais pour que ça marche en français, tu peux pas traduire mot à mot, tu peux pas faire une traduction littérale. Sinon, le dialogue, il aura pas le même impact. Moi, ce que je veux quand un mec va lire un bouquin que j'ai traduit, je veux qu'il rie, je veux qu'il pleure, je veux qu'il ait mal, je veux qu'il rigole aux éclats. Et ça, tu peux l'avoir que si tu prends suffisamment de recul et que tu reformules correctement et que tu fais en sorte que les gens parlent comme des vrais gens et non pas comme des personnages dont on a traduit le langage. Et c'est vraiment c'est pour ça que moi je vois pas ça comme un travail de traducteur, mais plutôt comme un travail d'adaptateur. Moi, je suis pas un traducteur servile. Moi, le texte de base, je le viole. Et j'encourage tous les gens avec qui je travaille à violer le texte de base. On s'en fout, on n'est pas là pour respecter, on n'est pas aux ordres, on est là pour faire ressentir des émotions à nos lecteurs. Et si pour ça, il faut entièrement reformuler une bulle parce que ça marche mieux en français en changeant tel ou tel truc, eh ben, il faut le faire. Parce que le but, c'est de fournir une expérience satisfaisante. C'est comme des montagnes russes, quoi. Si tu lisses, si le traducteur il lisse la montagne russe, en gros, s'il enlève les creux et les bosses parce que c'est plus simple pour lui, bah finalement,
c'est plat.
Voilà, exactement. Le mec qui monte sur le train, bah, il va dire ah ouais, super, je suis allé du début à la fin, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Bah, tu m'étonnes que c'était pas terrible. Le mec, il a lissé tous les dialogues, toutes les surprises, etc. Alors qu'au contraire, il faut restituer ça, mais de manière intelligente. Donc, okay. Il ne faut pas traduire, il faut adapter. Et parfois, il y a certains jeux de mots qui sont intraduisibles, il y a certaines scènes qui ne marchent pas en anglais ou enfin en français. Et bien, à ce moment-là, il faut réinjecter l'émotion qu'il y avait dans telle bulle dans une autre bulle pour que ça marche mieux. Et donc, c'est vraiment un travail où, justement, les bulles se répondent les unes aux autres. Et il faut traduire ça comme un ensemble et non pas comme une suite de... C'est pour ça, d'ailleurs, que la traduction automatique par des logiciels, par Google ou par DeepL Translator ou d'autres logiciels, ça ne peut pas marcher dans la BD. Parce que c'est vraiment une suite de dialogues qui se répondent les uns aux autres et pas un texte linéaire.
Oui.
Et c'est pour ça que ça doit être fait par un humain qui a un peu de bouteille et qui s'est posé la question de comment écrire des dialogues. Et moi, ça tombe bien, je suis aussi scénariste de BD. Donc, mon activité de traducteur nourrit mon activité de scénariste et vice-versa. Alors après, voilà, il ne faut pas oublier non plus que je suis traducteur, donc au service de l'histoire et au service du texte de base. Mais voilà, je suis au service du texte, mais pour le rendre meilleur pour le lecteur français et pas pour... Moi, mon but, ce n'est pas que les gens me disent « Ah, c'est bien, tu as bien respecté le texte de base, tu as tout traduit mot à mot comme moi j'aurais fait. » Ben non, j'en ai rien à foutre de savoir ce que toi, tu aurais fait avec ton dictionnaire. moi, mon but, c'est que justement, tu sois surpris, sinon ça n'a aucun intérêt. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais il faut trouver le juste milieu entre la créativité et le respect de l'œuvre originale.
D'accord. Donc, la transition est toute trouvée. Tu parlais à l'instant de ton activité également de scénariste de BD. Toi, tu es un passionné de foot. Et c'est assez naturellement que quand tu t'es... Alors, tu disais, il y avait toute l'aventure Climax Comics. Et que quand tu t'es lancé véritablement en tant que scénariste, que tes sujets de prédilection, c'est devenu Neymar ou Zlatan, comme tu en as parlé dans certaines de tes BD.
C'est vrai. Alors, en fait... Alors je vais dire que c'est Stephen King qui l'a dit, mais j'imagine qu'il l'a pas, c'est pas le premier à l'avoir dit, mais je me souviens qu'il disait les gens lui demandaient mais pourquoi vous écrivez, pourquoi la plupart de vos héros ce sont des écrivains. Il a dit c'est très simple, dans la vie on écrit, c'est toujours plus facile d'écrire sur ce qu'on connaît que sur ce qu'on connaît pas. Alors bon, écrire sur ce qu'on connaît pas, ça nous permet de se cultiver, et on peut se plonger dans un sujet qu'on connaît pas pour justement apprendre plein de choses et écrire un roman ou un scénario qui va tourner autour de cet univers là. Mais King, lui, il disait de toute façon, moi je suis écrivain, donc pour moi je me mets très facilement dans la peau d'un écrivain et voilà pourquoi mes personnages sont souvent des écrivains. Mais moi c'est pareil, je me suis dit qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie. Et j'ai plusieurs centres d'intérêt, bien sûr, je ne les ai pas encore tous traduits en BD, mais ma première BD professionnelle, c'était une BD pour laquelle on m'a payé, c'est pour ça. J'ai fait plein de BD de super-héros alors que je n'ai jamais été super-héros. c'était la période fanzine. Quand j'ai fait justement ma première BD professionnelle, c'était Mixman dans un magazine jeunesse et c'était un super héros, mais d'un autre côté, voilà, écrit sur ce que tu connais, je connais très bien les super héros, j'ai appris à lire dedans. Ma deuxième BD pro, c'était Zeitnot, qui était un manga qui mettait en scène une jeune lycéenne qui jouait aux échecs dans son club d'échecs du lycée. Il se trouve que moi, j'étais un gros joueur d'échecs dans ma jeunesse. J'ai fait des compétitions, j'ai joué contre Anatoly Karpov en simultané. J'ai créé deux clubs, celui de ma ville et celui du lycée. Enfin, bref, j'étais vraiment passionné par les échecs. J'ai étudié les échecs, j'ai fait des compétitions au niveau national, etc. Et après, tout ça, c'est loin derrière moi. J'ai perdu tout le niveau que j'ai pu avoir avant, mais c'était quand même intéressant. Et mon premier manga, c'était donc un manga sur les échecs. Et ainsi de suite, à chaque fois j'utilisais ce que je connaissais. Et comme tu l'as dit, je suis un gros passionné de foot, je suis supporter des Girondins de Bordeaux, alors c'est un peu dur en ce moment, les GG sont descendus en Ligue 2, mais bon, c'est la vie. C'était un centre d'intérêt que je partageais avec Dan Fernandez, qui était mon co-scénariste sur Bande Touche, qui était la BD d'humour. En fait, Bande Touche, au départ, ce qu'on voulait faire, c'était même pas une BD. On voulait en faire une série télé comme Caméra Café. On voulait faire le Caméra Café du football.
Et avec des petites pastilles courtes. Mais
qui filmaient le banc de touche, avec les mecs qui commentent les matchs ou les entraînements depuis le banc. Et on voulait faire ça. Et puis, de fil en aiguille, on a le projet a évolué. C'est devenu une BD qui est devenue une BD parodique et parodique de l'équipe de France de football.
D'accord.
Mais c'était une BD parodique qui n'était pas justement comme les autres BD de foot d'humour qui existaient. C'était une BD d'humour de foot, mais qui était faite par des gros, gros fans de foot, avec toute la culture des fans de foot qu'on ne trouvait pas dans les autres BD. Mmh. Parce que les autres BD, c'était des BD qui mettaient en scène des joueurs de foot, mais lambda, avec des vannes qui n'étaient pas forcément des vannes que pourraient faire des footeux qui sont vraiment à fond dans le truc.
Des private jokes presque.
Exactement. Ouais. Nous, on parlait en fait aux fans de foot, on parlait aux gens qui suivaient le championnat de France, la Ligue des Champions, le championnat anglais, la Coupe du Monde, etc. Et comme on avait vraiment cette spécialisation, cette spécialité même, en gros, on s'adressait aux connaisseurs, on est allé voir le journal L'Équipe et on leur dit, ben voilà, nous on fait une BD de foot qui parodie l'équipe de France et qui va parler à vos lecteurs. Et,
c'était pointu.
Exactement, ils ont été emballés, ils ont dit, ah bah ouais, super, on va sortir une page par jour de votre BD pendant la Coupe du Monde 2010. Et vous, votre mission, ça va être d'être plus drôle que l'équipe de France. Et pas de chance, on est tombé sur l'équipe de France la plus drôle de tous les temps et ils ont réussi à être plus drôles que nous.
Battu sur votre propre terrain. Voilà.
Mais bon, c'était une expérience inoubliable. Tous les jours, on devait faire un gag qui mettait en scène ce qui se passait dans l'équipe de France. En gros, on regardait les matchs tous les jours. Je pouvais dire à ma femme, non, mais là, je regarde la télé, mais c'est pour le boulot, tu comprends. Je regarde les matchs de foot, c'est normal, ça fait partie d'un truc. Ouais. Et j'ai regardé toute la Coupe du Monde 2010 en me disant, bah là, ça va, je travaille. Et donc, c'était bien. Et donc, bah, après chaque match, je prenais des notes. Enfin, même pendant les matchs, je prenais des notes. J'avais des idées de gags. Et on échangeait avec Dan Fernandez, mon co-scénariste, pour trouver le meilleur gag possible pour le gag du lendemain, le journal L'Équipe. Et donc, dans le même temps, le dessinateur, c'était Albert Carreres, avec qui j'ai fait plein de BD de foot, aussi bien en BD d'humour que en manga, parce qu'il y a aussi un style manga qui est vachement bien. Et Albert, bah lui aussi, c'est un gros fan de foot. Il suit tous les championnats. Donc lui, il habite à Barcelone, c'est un supporter de Barcelone. Et il suit tous les championnats européens, y compris même, il connaissait même les clubs de Ligue 2 française, c'est-à-dire s'il avait vraiment un bon niveau en foot européen. Il a joué au foot. Et donc, c'est vachement important d'avoir un dessinateur qui connaît le foot, parce que quand il dessine une reprise de volée, c'est une reprise de volée, alors qu'un mec qui ne connaît pas le foot, il va dessiner un coup de pied de karaté. Ouais. Et c'est pas la même chose. On voit la différence entre les mecs qui regardent le foot, qui ont joué au foot, et ceux qui n'y connaissent rien, qui comprennent pas. Enfin, on leur dit fait une reprise de volée, ben les mecs non, ils font un coup de pied de karaté. Et bah voilà, on s'est retrouvé donc avec Dan, Albert et moi, avec trois gros fans de foot, à échanger plein d'idées, d'idées de mise en scène. Et donc on a fait trois tomes de bande touche, deux qui parodiaient l'équipe de France de foot, un qui parodiait l'Olympique de Marseille. Ensuite, l'éditeur a fait faillite, donc on a dû trouver un autre éditeur. C'est pour ça que la BD ne s'est plus appelée Bande Touche. Après, on a fait trois tomes de Zlatan Style, qui parodiait Zlatan, ce qui n'est pas évident, parce que Zlatan, c'est déjà une parodie aussi.
Oui, c'est pas facile d'aller plus loin que lui.
C'était assez marrant. Et puis après, quand Neymar est arrivé, on a fait aussi Neymar Style. Et puis ensuite, on a fait Le Réveil des Bleus,
pendant la France, Coupe du Monde.
Là, je crois que c'était
2014.
Ah si, c'était de Coupe du Monde 2014, ouais, tout à fait. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait Non, c'est peut-être l'Euro 2016, le Réveil des Bleus, je ne sais plus. C'était un des deux.
D'accord.
Oh, c'est loin tout ça.
C'est pas moi qui vais te dire.
Et donc après, pour le manga, en parallèle, on a fait le manga de foot en trois tomes qui est devenu Z United aujourd'hui, qu'on publie au format Webtoon. Mm-hmm. Et devant le succès de cette série-là, justement, on a été contacté par les éditions Soleil et le Paris Saint-Germain pour qu'on fasse le manga officiel du Paris Saint-Germain. Donc là, c'était vachement bien. Le PSG qui voulait qu'on fasse leur manga. Donc on a fait le manga en deux tomes qui met en scène l'arrivée de Neymar au PSG. Et c'est dommage, on aurait pu mettre en scène aussi l'arrivée de Kylian Mbappé. Mais le temps qu'il signe son contrat, on avait déjà fini le premier. On avait entièrement réécrit les deux derniers chapitres pour inclure Neymar. On s'est dit, on va pas tout refaire. on va arrêter là, puis on va envoyer le bouquin à l'édition, donc chez Soleil. Et donc oui, je suis un gros fan de foot. Là, je suis en train de finir l'écriture de la deuxième saison de Z United, donc le webtoon de foot qui se passe à Bordeaux. Et puis même en tant que fan de foot, j'ai eu la chance d'être sélectionné dans l'équipe de France de football des écrivains et des auteurs de bande dessinée.
Justement, j'allais t'en parler. J'ai découvert l'existence de cette équipe en préparant l'émission. Je me demandais comment ça fonctionnait, avec qui tu avais joué, à quel poste tu évoluais.
Alors moi, comme je suis pas très très bon, je pouvais pas avoir un poste technique, donc j'étais pas attaquant. Moi, j'étais défenseur. Hein, j'étais latéral. Latéral gauche ou latéral droit. Le problème, c'est que j'ai plus de 40 ans et quand tu joues contre des mecs qui parfois ont 30 ans, mine de rien, c'est quand même déjà une sacrée différence en termes de, alors non pas d'endurance, mais surtout en termes de vitesse. puis moi, j'avais pas fait de sport depuis entre mon service militaire et mes 40 ans, j'ai arrêté le sport. Et donc, quand j'ai recommencé, c'était très dur. Mais bon, c'était une très bonne aventure. Et puis surtout, j'ai fait des super rencontres avec cette équipe de France. On a fait un match, enfin, l'équipe de France a continué sans moi, mais moi, après, j'arrêtais pas de me blesser. Puis comme j'étais pas bon, j'ai pas insisté. Il valait mieux que je laisse ma place à des mecs qui savaient vraiment un peu mieux jouer que moi. Mais le premier match de l'équipe de France de foot des auteurs a eu lieu à Paris. Contre l'Allemagne, bah, j'y étais et on a perdu 2-1, mais c'était bien. Ou on a fait un partout, je ne sais plus. Non, je crois qu'on a perdu 2-1. Et le match retour, c'était en Allemagne, à Francfort, pendant la foire du livre de Francfort. C'était un souvenir inoubliable. Et voilà, c'est pareil, j'avais joué. Hein. On a encore perdu, mais j'étais content. Et ce qui était super, c'est que bah, notre entraîneur, c'était Jimmy Adjovi-Boko, joueur légendaire du Racing Club de Lens. Et dans l'équipe, il y avait aussi son prénom m'échappe, le grand frère de Basile Boli, mais pas Roger non plus, un autre, leur grand frère à tous les deux.
Je suis désolé, bon, je vais pas pouvoir.
Et puis d'autres mecs très sympas avec qui j'ai passé de très bons moments pour jouer au foot, quoi, et puis discuter écriture, édition, tout ça. C'est une très bonne expérience.
Super. Et tu parlais tout à l'heure de l'aventure Climax Comic, et après d'un studio que tu avais créé, qui a évolué pour devenir aujourd'hui le studio Macma,
ouais.
Que tu as co-créé avec Stéphane Beauchat, il me semble.
Ouais.
Et alors, donc, tu disais... Vous êtes aujourd'hui sur le marché européen le leader en ouais. termes de traduction de comic book.
De comics et de webtoons surtout, parce que en comics on en fait un petit peu, mais c'est surtout sur le webtoon.
Sur le webtoon.
Vas-y.
Non, vas-y, pardon, je t'en prie.
Bah, sur le webtoon, on adapte, c'est-à-dire on fait la traduction, le lettrage, la relecture de plus de 3000 épisodes de webtoon par mois.
D'accord.
Donc c'est quand même énorme. On en fait pour le marché français, pour le marché allemand, pour le marché hispanophone, notamment en Amérique latine, pour le marché américain aussi. Donc on est vraiment sur beaucoup de territoires, beaucoup de langues, et on traduit depuis le coréen, depuis le mandarin, donc le chinois, depuis le thaïlandais, depuis le japonais. On le faisait déjà avec les mangas, mais enfin bon, là on fait aussi des webtoons. Enfin, bref, on a développé depuis ces 3-4 dernières années tout un pan d'activité vers la bande dessinée numérique, donc le webtoon, qu'on ne faisait pas avant.
D'accord.
C'est-à-dire que depuis 2019, notre activité a été complètement révolutionnée en quelque sorte. On était déjà très bien, on était déjà un studio, le plus gros studio d'adaptation de comics en France. Mais là, grâce à l'activité webtoon manga qui est en train d'exploser, on est en train de prendre une envergure.
Vous avez entamé
ce virage. Ouais. On disons qu'on a embrassé pleinement toutes les nouvelles opportunités qui se présentaient, notamment au niveau du webtoon. Qui n'existait pas ou quasiment pas sur le marché français.
Ouais.
Il y avait quand même des litounes depuis des années.
C'était plus confidentiel.
Mais voilà, exactement, c'était confidentiel, alors que maintenant, c'est énorme, d'une part. Et il y a la croissance du marché du manga qui est quasi verticale en ce moment. Ils ont fait plus 150% en 2021. Je ne sais pas combien ils vont faire en 2022. Enfin, un truc de malade. Et donc forcément, cet appel d'air qui se crée au niveau des mangas, du marché du manga, fait que nous, on a une carte à jouer. Nous, on était déjà sur ce marché-là. On bossait avec quelques éditeurs, on faisait quelques prestations de temps en temps, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le niveau de demande est tel que nous, avec notre force de frappe, on était capable de répondre à cette demande.
D'accord.
Et le fait d'être déjà bien installé, notamment sur les webtoons, depuis que Never est arrivé en France en 2019, le fait d'être bien installé, ça nous a permis de mettre le deuxième pied dans l'adaptation de la bande dessinée asiatique. Donc le premier pied chez nous, c'était... Bon, on avait fait un peu de manga, de manhwa, etc. Mais on a vraiment mis le paquet sur les webtoons. Et le fait de devenir hyper crédible sur les webtoons nous a permis de devenir également hyper crédible sur les mangas.
D'accord. Et ouais. Je me demandais, le studio, comment est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce que c'est une agrégation de traducteurs ? Il y a une équipe un peu permanente ? Vous recrutez fréquemment des nouveaux talents ? Tu parlais des gens qui viennent y compris des gens qui viennent de la Scantrad ou
Absolument. Alors, on a plusieurs... pour faire simple, on va dire que chez Macma, même si au départ, on a créé Macma pour être un studio de création de bandes dessinées, par la force des choses, par même l'historique de Macma, puisque nos premiers travaux financés, enfin professionnels, où on a gagné de l'argent, c'était des travaux d'adaptation. Aujourd'hui, l'adaptation, c'est-à-dire traduction-lettrage, ça représente presque deux tiers de notre activité.
D'accord.
On va dire 60%. Le reste, ça va être D'une part, des travaux de prestation artistique, comme par exemple de la colorisation ou du lettrage, quand des éditeurs nous demandent « Est-ce que vous pouvez faire la colorisation de ce bouquin pour nous ?»« Ouais, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire le lettrage ?» Oui, d'accord. Donc là, ce n'est pas de l'adaptation, c'est de la prestation graphique, artistique pour des éditeurs. Et après, il y a 20% qui sont de la création pure, donc scénario, dessin, couleur, pour des BD qu'on crée entièrement chez nous et qu'on va faire éditer chez d'autres éditeurs, comme par exemple chez Hachette, où on a fait toute une collection de 60 bouquins sur l'histoire de France.
Ah oui, d'accord.
Entièrement créé, scénarisé, dessiné, colorisé, lettré, etc.
D'accord. Et ok.
Donc ça, c'est notre activité. Ensuite, notre recrutement aujourd'hui, il est indexé forcément sur l'activité du marché. Et le marché, en ce moment, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande une augmentation des adaptations de webtoon d'une part, de manga d'autre part. Donc on recrute en permanence et on forme des traducteurs du coréen et du japonais vers le français et surtout des lettreurs. Il y a énormément de lettreurs. On a besoin de beaucoup de lettreurs. Donc les lettreurs, pour faire simple, ce sont les gens qui mettent les mots dans les bulles et qui retouchent les bulles éventuellement. Donc c'est un travail qui se fait soit sur Photoshop, soit sur InDesign. Et les gens qui ont fait des écoles de graphisme, a priori, on pourrait penser qu'ils savent faire ça, mais en fait non, parce que c'est vraiment un métier ultra spécifique. Donc nous, on recrute des gens. Éventuellement, ça nous intéresse de savoir les diplômes qu'ils ont, mais nous, on recrute des gens sur ce qu'ils sont capables de faire. Mmh. Et souvent, on voit des gens dans le Scantrad qui sont capables de faire des choses. Ils ont quand même besoin d'être formés. Donc, d'une part, on teste les gens, que ce soit pour de la traduction ou pour du lettrage. Et ensuite, on les forme. Et on a une vraie post-formation, en quelque sorte. Les gens, ils arrivent chez nous. Et ils ont un cycle de formation où on les fait passer par différents... Alors, pas des diplômes, mais enfin différents...
des formations internes.
On regarde ce qu'ils savent faire. Il y a des formations internes. Et quand ils ont suivi cette formation interne, ils peuvent enfin devenir lettreurs officiellement chez nous.
Bon, voilà. C'est bon à savoir que ça recrute s'il y a des gens qui nous écoutent et qui rêvent d'embrasser une carrière de.
Et on va recruter aussi des artistes, des dessinateurs, puisqu'on va créer un de nos gros objectifs là du moment, c'est de mettre en place la création d'un studio. En fait, on va mettre en place un studio de création de webtoon et de manga ou de bande dessinée en général. Nous, notre but, c'est de lancer avant la fin de l'année une vingtaine de pilotes de séries au format webtoon.
D'accord.
L'avantage du webtoon, c'est que quand tu fais un webtoon, chaque semaine tu sors un épisode. Donc très vite, au bout de 3-4 semaines, tu sais tout de suite si le public répond présent au rendez-vous et si ta série va marcher. Voilà. Ouais. Donc ça te permet en l'espace de un épisode de webtoon, pour faire simple, c'est à peu près 5 ou 6 pages de comics. Donc ça te donne une idée. Pour à peu près l'équivalent de 20 pages, donc un épisode de comic book, tu as c'est comme si tu faisais un one shot quoi, et donc tu sais si les gens vont aimer l'histoire ou pas, et t'as même pas besoin de payer l'impression ni quoi que ce soit, t'as pas besoin d'avoir un éditeur, tu sors sur une plateforme. Donc nous, notre but, c'est d'en sortir une vingtaine,
c'est l'héritier des fanzines en fait.
Exactement. Et de voir ce qui va marcher ou pas. Et donc pour ça, on monte un studio, on va recruter des auteurs. Et un truc qui est hyper important, c'est que en France, ce qu'il faut pas oublier, c'est que plus de la moitié des auteurs de bande dessinée vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et nous,
tu fais bien le rappeler.
Ce qu'on essaie de faire, c'est de dire aux auteurs, vous voulez faire de la BD c'est dur, c'est vrai, c'est dur hein, la BD, même moi, j'ai dû avoir un autre métier à côté de mon activité de BDaste jusqu'à l'âge de 34 ans, c'est-à-dire qu'en 2008, alors que Macma existait depuis 2001, j'étais obligé d'être encore salarié à côté pour pouvoir gagner assez d'argent pour vivre correctement. Et j'ai pu arrêter et ne faire plus que de la BD à partir de 2008. Donc tu vois, alors que j'avais commencé en amateur, il y a encore, etc. Donc c'est vraiment un parcours long. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on dit aux auteurs de BD, aux artistes, on leur dit, écoutez les gars, vous voulez être dessinateur, vous voulez être scénariste, je sais pas quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de vous garder dans le milieu professionnel de la bande dessinée. Donc on va vous proposer de devenir lettreur ou traducteur, ou en tout cas de bosser, de gagner votre vie dans la BD. Et dès qu'on aura l'opportunité, on vous mettra sur un projet de création. Et donc, un dessinateur qui ne gagne pas forcément bien sa vie ou qui a du mal à placer des projets, ce n'est pas grave parce qu'à côté, on peut le faire bosser comme lettreur. Et ça, on aura toujours du boulot pour lui en tant que lettreur. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous parce qu'ils vont faire un peu de dessin, un peu d'ancrage, un peu de colorisation. Et à côté, d'ailleurs, la colorisation, ça fait partie des boulots aussi qui sont plus faciles à vendre puisque... c'est un boulot de prestation de service, donc on peut aller le vendre à plein d'éditeurs. Donc voilà, on va avoir des dessinateurs ou des scénaristes qui vont nous dire « Ok, ben moi, je veux placer des projets. J'ai compris que c'était dur, mais donc en attendant de placer mes projets en tant qu'auteur, ben, je veux bien devenir traducteur ou lettreur ou coloriste chez vous. » Alors évidemment, on ne prend pas n'importe qui. On prend des gens qui savent traduire ou qui savent coloriser ou qui savent utiliser Photoshop ou InDesign. Mais au moins, c'est une porte, non pas de sortie, mais on va dire que c'est une roue de secours qui permet aux auteurs de vivre en ayant une activité professionnelle. Et plutôt que de devenir magasinier chez Castorama ou Leroy Merlin et porter des palettes, ou alors d'aller chez Quick, moi j'ai bossé 3 ans chez Quick, hein, j'ai tourné des burgers pendant des années, on leur dit ben non, tu sais quoi mec, tu vas venir chez nous et tu vas bosser dans la BD. Alors ok, tu voulais peut-être pas être lettreur, mais au moins tu vas rester dans l'univers professionnel, tu vas venir au salon avec nous rencontrer des éditeurs pour pitcher tes projets et ainsi de suite, tu feras partie de la famille Macma. Alors je dis la famille Macma, c'est quand même 15 salariés et plus de 300 artistes auteurs. Certains d'entre eux n'ont pas forcément envie de devenir auteur de BD. Il y en a qui s'éclatent à faire du lettrage ou qui s'éclatent à faire de la traduction. Et tant mieux.
Bien sûr.
Mais quand un mec vient nous voir avec un projet de BD, qu'on lui dit bon, écoute, c'est bien, tu dessines bien, on aime bien ce que tu fais, mais là, ton projet, on ne va pas pouvoir le vendre. Et voilà, on n'est pas non plus magicien, on ne peut pas fabriquer le succès. On peut permettre aux gens qui attendent justement ce succès, qui aiment bien enchaîner les projets et les proposer aux éditeurs, on peut leur dire tu sais quoi, en attendant que le succès frappe à ta porte, tu vas pouvoir au moins gagner ta vie chez nous.
Ça évite les périodes de vache maigre.
Exactement. Voilà. Et puis surtout, il vaut mieux bosser dans la BD quelque part que, comme je te disais, faire un boulot qui n'a rien à voir et dans lequel tu vas te sentir pas à ta place.
Voilà. Et il y a cette idée aussi de, parce que finalement j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont scénaristes qui connaissent pas forcément comment les lettreurs fonctionnent, comment les coloristes fonctionnent.
Exactement.
Et finalement il y a cette idée d'avoir une vision un peu à 360 de la BD, de jouer les touches à tout, et finalement c'est pareil, t'en ressors que enrichi quoi.
Ah ben moi au début de ma carrière je faisais déjà d'une part j'ai commencé comme scénariste et lettreur un petit peu parce que je lettrais mes propres BD dans les fanzines. Alors aujourd'hui quand je vois comment je faisais je suis horrifié, mes scénarios étaient nazes, mon lettrage était dégueulasse, mais bon j'ai touché à tout, j'ai appris sur le tas. Mais par contre, justement, le fait d'apprendre, de comprendre comment fonctionnait le lettrage, ne serait-ce que ça, comprendre comment tu places les bulles, comment tu places les lettres, etc., les mots dans les bulles, et comment tu fais une queue de bulle pour que ce soit efficace, le fait de te poser la question, ça t'aide aussi à comprendre quand tu es scénariste que tu ne peux pas faire un aller-retour de 4 dialogues différents dans la bouche de personnages qui discutent entre eux. Parce que sinon, les bulles ne vont pas pouvoir être lues dans le bon sens. Ou alors, il faut expliquer au dessinateur que non, là, dès le storyboard, ça ne sera pas possible parce que tu comprends, j'ai prévu un dialogue comme ça. Enfin, bref, le fait de s'intéresser au lettrage, ça permet vraiment un plus que n'aurait pas forcément un dessinateur. Ou même, je sais pas, un lettreur qui a aussi touché à la colorisation, par exemple, il va se dire, je pourrais peut-être mettre des bulles en couleur, enfin, j'en sais rien. Mais en gros, le fait de toucher à tout et de permettre, nous, on fait des formations continues pour tout. Si on a un traducteur qui nous dit, je voudrais aussi faire du lettrage parce que ça m'intéresse ou parce que j'aimerais bien corriger moi-même les dialogues que j'ai traduits, parce qu'il y a un relecteur qui va passer dessus, puis lui au moins s'il s'occupe lui-même de faire la relecteur, enfin d'intégrer les corrections, il va voir au passage, ça va lui permettre de comprendre ce qu'il doit améliorer pour devenir un meilleur traducteur, ou pourquoi ces textes sont trop longs, et quand il a fait du lettrage, il comprend que le calibrage du texte c'est important aussi, que tu peux pas tout le temps t'écouter parler, enfin te traduire à gogo, mais il faut aussi penser à la taille des bulles, et donc
faut que ça reste
être un texte qui va pouvoir rentrer dedans, enfin bref. C'est bien de toucher à tout, et ça aussi c'est quelque chose qu'on propose à nos collaborateurs.
Super, très belle initiative. Et justement par rapport à ce que tu disais, donc tu détaillais tes différentes activités, donc il y a la traduction, il y a l'écriture, ton travail de scénariste, et il y a aussi beaucoup de tout ce qui concerne les affaires courantes qui sont liées à la vie de Macma, puisque tu disais c'est quand même un certain nombre de salariés et de collaborateurs. Est-ce que c'est difficile de jongler avec tout ça? Est-ce que ça crée on doit faire des sacrifices, ça génère des frustrations?
Alors oui, forcément. D'ailleurs, moi, à titre perso, alors j'ai pas renoncé parce que je vais m'appliquer à reprendre l'écriture, reprendre la création, parce que c'est quand même pour ça que j'ai créé Macma au départ avec Stéphane. En revanche, Je suis obligé de faire des choix. Effectivement, les journées font que 24 heures. J'en passe au moins 6 à dormir. Et après, le reste, bah, voilà, il faut faire un peu de sport. Il faut, faut avoir une vie de famille.
Voilà, c'est ça aussi.
Comme ça.
La vraie vie.
Mais je me tape quand même des journées de 10-12 heures la plupart du temps. Enfin, au moins 5 jours par semaine. Et puis, la plupart du temps, le week-end, je bosse au moins 4-5 heures, 6 heures chaque week-end. Et je ne parle pas des week-ends où je suis en salon ou en festival. Donc, en fait... c'est énormément de sacrifices par rapport à ta vie privée. Mais d'un autre côté, quand tu bosses dans la bande dessinée, c'est un métier passion. Moi, je quand je me lève le matin, je me dis pas oh là là, je vais au boulot. Je me dis
tu vas pas trop bien, à l'usine.
Voilà. Ouais. Je bosse dans la BD, quoi. Je suis pas livreur de pizza en mobylette. Je risque pas ma vie. Je suis contente de faire ce que je fais. Alors, j'ai fait cuire des steaks chez Quick pendant 3 ans. J'ai fait les vendanges pendant des années. Bon, c'était un job saisonnier. Enfin, tous les mecs qui ont fait les vendanges, je peux te dire que quand ils rentrent chez eux le soir avec le dos complètement en vrac, ils se disent ah là là, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie.
C'est ça aussi, c'est que tu te souviens du chemin parcouru.
Bah, je me souviens d'une part du chemin que j'ai parcouru et je me souviens, j'ai sous les yeux. Le chemin qu'avec Stéphane, on a aidé plein de gens à parcourir. Chez Macma, on a énormément de gens quand même à qui la société demande d'être... Quand tu es un auteur, en fait, la société, elle te dit « Ok, bon, tu es un auteur, mais il faut aussi que tu sois un entrepreneur. Il faut que tu sois capable d'aller te trouver tes clients, il faut que tu sois capable de faire tes factures, il faut que tu sois capable de déclarer tes URSSAF, etc. Enfin, déclarer tes notes d'auteur. » Plein de trucs hyper compliqués qui sont en fait des choses qu'on demande à un entrepreneur. Nous, on arrive et on dit aux artistes, vous en faites pas les gars. Nous, on va vous simplifier tout ça, on s'en occupe pour vous. Et vous allez vous occuper de faire ce que vous savez faire.
Vous concentrez sur l'essentiel.
De dessiner, de traduire, de faire vos trucs à vous.
Le métier d'auteur à proprement parler.
Exactement. Et ça, c'est un truc vachement important parce que sans ça, y a un paquet de gens dans notre équipe qui aujourd'hui en fait auraient juste bossé pendant 1 ou 2 ans puis se seraient dit oh bah non c'est trop dur,
c'est décourageant,
on a du mal à trouver des clients parce que tout le monde n'est pas commercial. Moi j'ai la fibre commerciale, j'adore aller rencontrer les clients,
mais parfois c'est compliqué de se vendre même si t'as des idées incroyables, d'aller pitcher, d'aller, et puis il y a plein de gens qui veulent être auteurs sans pour autant avoir à faire
il y a même beaucoup d'auteurs qui sont très très réservés, qui ont beaucoup de mal à s'exprimer en public ou à s'exprimer face à un éditeur, et donc toutes ces barrières, nous on les fait tomber, on leur dit mais t'en fais pas, tu sais pas le faire, t'inquiète, on va le faire à ta place. Et après, chacun sa spécialité. Et nous, on a réussi à fédérer autour de nous donc plus de 300 artistes auteurs qui chacun a sa spécialité. Mais y a beaucoup de gens, alors il y en a sans doute dans l'équipe qui pourraient se débrouiller tout seuls. Mais finalement, s'ils restent avec nous, c'est aussi parce que le service qu'on apporte, il leur permet
une
meilleure efficacité. Et moi, je suis vachement fier de ça aussi. Donc, je suis content de ce que j'ai fait pour ma propre carrière. Mais je suis aussi super fier d'avoir aidé autant de gens à se professionnaliser dans la BD. Et c'est pas terminé, parce qu'on a vraiment envie d'aller chercher beaucoup plus de choses, notamment avec le studio de création de Webtoon qu'on est en train de préparer.
Super. Passionnant, effectivement. Alors, on arrive malheureusement, on va bientôt arriver au terme de l'émission. Et donc, la tradition du quatrième mur veut que je termine l'émission en demandant à chacun de mes invités s'ils ont une œuvre qui leur tient particulièrement à cœur, quelque chose qu'ils aimeraient partager avec nos auditeurs et auditrices. Et je crois que toi, tu es venu avec une idée bien précise qui est, qui plus est, thématiquement très proche de beaucoup de choses dont on a parlé pendant l'émission.
Absolument. Et d'ailleurs, je m'en étais pas forcément rendu compte avant qu'on en parle.
Alors, c'est ça qui est bien, le quatrième mur, c'est aussi un peu, ça fait un peu divan de psy.
D'ailleurs, le quatrième mur, justement, il brise le quatrième mur à la fin un petit peu. Alors là, donc l'œuvre que j'ai choisie...
Tout est lié, la boucle est bouclée, fantastique.
C'est le vidéoclip Thriller de Michael Jackson. Je parle bien du clip, pas de la chanson, mais je suis un gros fan de Michael au niveau musical, bien sûr. Quand le clip de Thriller sort, je parle pas de l'album qui est sorti fin 82, mais je parle donc du clip qui est sorti fin 83. Bah, j'ai presque 10 ans à l'époque, puisque j'ai eu 10 ans en janvier 84, donc juste avant. Et ce clip, il réunit finalement plein de choses. Il réunit la musique, la danse, la coolitude, parce qu'il est quand même super cool, Michael. À l'époque, c'est pas le Michael de sa fin de carrière, quoi. C'est vraiment le Michael qui est super cool. Tous les gamins de mon âge rêvaient de devenir Michael Jackson,
même la façon dont il était habillé et tout, c'est incroyable.
La manière dont il regarde la nana avec qui il est sorti au cinéma, enfin, tout est là. Enfin, sa gestuelle à ce moment-là, moi je me dis, mais ouais, c'est ça que je veux être. Moi, quand je serai grand, je vais être Michael Jackson. Donc je me mets à imiter ses pas de danse, etc. D'ailleurs, ma vie aurait été complètement différente. J'aurais pas écumé les boîtes de nuit et les pistes de danse de la même façon sans Michael. J'aurais pas devenu un fan de funk. Et peut-être même qu'effectivement, dans ce clip qui met en scène des zombies qui dansent, Peut-être que j'aurais pas eu cette même appétence peut-être pour l'histoire de zombies comme Walking Dead. Mm. Et puisqu'on parlait du quatrième mur, il y a la fin du clip, hein, souvenez-vous, chers auditeurs, la fin du clip, c'est Olare, donc la nana du clip, qui se réveille parce qu'elle donc elle a fait un cauchemar donc elle se réveille et Michael la regarde, il dit allez viens je te ramène à la maison, il se retourne vers la caméra, il regarde la caméra, il y a ses yeux qui deviennent jaunes comme les yeux du loup-garou du début du clip, et il rigole avec ce rire-là.
Ce rire démoniaque.
Le rire de Vincent Price, qui est samplé donc, dans la chanson. Et donc, à ce moment-là, il brise le quatrième mur et il nous fait un clin d'œil. Il dit, eh oui, elle croit qu'elle est arrivée, mais vous qui avez regardé, qui avez dansé avec moi derrière la télé, vous savez bien que c'était vrai. Et c'est un peu une manière dont Michael nous dit, ben oui, regardez...
De connivence.
Exactement, c'est de la connivence. Il nous dit, oui, je suis cool hein, quand même. Voilà. Et ça, je pense, c'est voilà, c'était super.
Écoute, je crois que c'est le premier épisode du quatrième mur où on termine avec quelqu'un qui brise le quatrième mur. C'est incroyable, ça, c'était pas répété, sachez-le. Ça a été improvisé totalement. Edmond Touriol, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette heure passée ensemble, pour toutes ces choses passionnantes. Merci à toi. Bonne soirée à tous et à bientôt.
Salut.